Yes, amen. Dieu est bon et puis il a encore plein de choses en réserve pour nous. Notamment au travers du message de Marc Stuby qu'on a le privilège d'accueillir ce matin. Et il est accompagné de sa femme Anne et puis on veut vous souhaiter aussi du coup la bienvenue. On est vraiment heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Ils font partie de l'église Le Cap à Aigle. Et puis, c'est vraiment un homme et une femme de Dieu. Et puis, on se réjouit de pouvoir vraiment entendre Marc ce matin. Il a une sensibilité et une écoute de Dieu. Et puis, il a vraiment à cœur aussi Dieu et son église. Il a un cœur passionné, il a une fibre prophétique aussi. Et vraiment, on se réjouit d'entendre ce que Dieu lui a mis sur le cœur ce matin. Yes.
Donc vous avez la chance d'avoir devant vous un homme parfait, vous avez compris? Aïe, 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 tous ces compliments. Merci. Vous savez, il ne faut pas laisser tomber à terre tout ce que Dieu dit. Alors moi, j'ai déjà entendu un certain nombre de choses ce matin, comme vous. Et la première des choses, c'est quand on priait avec le groupe Louange, et il y a eu une image qui disait, « Tu es venu avec quelle grandeur de panier pour recevoir quelque chose de Dieu ce matin ?» Et puis, là, on sentait que l'Esprit disait, il va falloir que tu agrandisses ton panier. Il faut que ce soit un énorme panier, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, à vous donner, pour que vous soyez remplis à déborder. Ça, c'est la première pensée. La deuxième pensée, c'était cette cascade. Comment est-ce que vous avez compris cette cascade au milieu de vous? C'était 2-3 gouttes? C'était énorme? Ça débordait. Alors, ayons de l'ambition ce matin pour recevoir la totalité de ce que Dieu veut nous donner. Vous êtes d'accord? C'est déjà deux fois la même pensée. Hein, un grand panier et une grande cascade. Et puis, il a été... C'est encore trop petit. Soyons fous. Après, il y a encore une autre chose qui a été dit et sur laquelle je suis sensible. Sois en vérité devant Dieu. Sois en vérité devant Dieu. Tout ce que tu caches, tout ce que tu gardes pour toi, c'est un frein à l'onction. Sois en vérité devant Dieu. Et ce matin, tu peux encore lui dire, avant qu'on entre pleinement dans ce message, oui, Seigneur, je veux être en vérité devant toi. Là, normalement, vous devez dire amen. Vous êtes d'accord? Voilà. Passons plus loin. Vous savez, toute prédication, elle a une histoire. Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette prédication que je tiens à dire qu'est spécialement pour vous. C'est quelque chose que Dieu aimerait vous donner ce matin et qui appartient à votre communauté. Alors, ça a commencé comme ça. Bien sûr, je priais et puis il y a ce passage de Jean 4, verset 32 qui est venu et qui dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ça vous dit quelque chose? Le contexte, peut-être? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et puis le contexte, ben, je vais vous le donner, c'est Jean 4. Et dans ce texte, il est parlé de la Samaritaine. Puis là, vous vous dites, ouais, mais mon gars, t'es complètement à côté, hein? Parce qu'il y a 15 jours en arrière, David, il a prêché sur ce texte. Super. Alors, j'appelle David, je lui dis, écoute, j'ai reçu ça. Puis il me dit, ouais, c'est bien parce que je viens de prêcher dessus. Comment dire? Un petit coup de chaud, oui. Mais voilà, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et donc, j'aimerais d'abord te remercier, David, parce que tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit, ouais, mais avec ce que tu dis, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis il m'a dit, écoute ce que j'ai dit. Alors j'aimerais te rendre hommage d'abord, David, pour te dire que j'ai eu un énorme plaisir à entendre ton message, qui m'a stimulé, qui m'a encouragé à avoir soif, soif et encore soif de Dieu, et de voir cette magnifique cascade, non seulement être au milieu de vous, mais être en toi. Parce que tu sais ça, elle est en toi. Elle est en toi, cette cascade. Alors, je vais passer très rapidement sur le début du chapitre 4, parce qu'il y a un enregistrement, et que David a très très bien fait ça. Et donc, je vous renvoie à l'écoute de son message. Mais je vais quand même néanmoins rappeler quelques points pour que, pour ceux par hasard qui ne l'ont pas entendu, ben vous allez l'entendre. Mais je rappelle quelques points. Jésus était en déplacement entre la Judée et la Galilée. Il n'emprunte pas le chemin habituel qui contournait la Samarie, mais il prend une sorte de route directe. Et en choisissant ce chemin, Jésus savait que les habitants de cette région, détestés et méprisés, avaient aussi besoin de connaître la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le deuxième point qui va nous aider à comprendre la suite du texte est que Jésus, il était fatigué. Il avait soif, probablement faim, et il en avait assez de marcher. Alors, moi j'aime ce Jésus, tellement proche de nous, qui sait que quand on a beaucoup marché, quand on est fatigué, quand on a soif, on n'est pas très disponible pour son œuvre parfois. Vous êtes d'accord? Et puis peut-être que ça va changer. Donc il va s'arrêter sur le bord d'un puits, près d'une ville appelée Sichar. Voilà, je regarde David parce qu'il a expliqué ça en long, en large, pourquoi c'était juste génial. Et puis, pendant ce temps-là, il s'assied. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la ville. Parce qu'eux, ils avaient tellement soif et tellement faim, ils étaient tellement cuits qu'ils avaient vraiment besoin de se restaurer. Et là, on voit qu'il y a un choix. Jésus décide de rester là. Et ses disciples, ils vont à la Migros du coin. Et là, il y a dans ce texte quelque chose de très intéressant. Jésus, il a marché avec ses disciples pendant... quatre jours. Donc ils ont eu le temps de causer, d'avoir faim, soif, etc. Et lui, il s'arrête au puits, et puis ses disciples, ils partent. Et là, tout à coup, Jésus, il est seul. Et il se passe un truc de fou, c'était le sujet de la prédication de David. Il y a une femme qui vient avec une cruche, et puis pour la suite, vous écoutez. Nous, on va prendre le texte un petit peu plus loin, à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je le redis « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et une deuxième partie, d'accomplir son œuvre. » Et puis, je ne sais pas ce que les disciples ont compris, mais Jésus, il a tout de suite embrayé sur une deuxième chose. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc on voit ces disciples qui reviennent du village avec leur sac à commission. Ils rencontrent Jésus, ils voient cette femme qui est là. Alors je crois qu'ils sont un petit peu troublés. Et comme ils connaissent très très bien leur rabbi, leur maître, ils ont plein de questions dans la tête, comme nous souvent, mais ils disent rien à Jésus. Alors ces deux questions, elles sont intéressantes. Que lui demandes-tu? Et la deuxième question, pourquoi parles-tu avec elle? On s'arrête un instant sur ces deux questions. Je vous rappelle que c'est dans leur tête, elles ne sont pas verbalisées, vraiment. Elles sont dans leur tête, elles sont là, on va dire pourquoi. Que lui demandes-tu? Qu'est-ce que Jésus pourrait demander à une femme, lui qui sait tout? Étonnant cette question. Alors j'ai été regarder un tout petit peu en grec. Et cette question, c'est elle se tournerait plus comme ça dans la parole de vie, par exemple, par « Que lui veux-tu ?»« Que lui veux-tu ?» Et le terme, c'est « chercher à résoudre par la pensée, par la méditation, le raisonnement. » Donc, ils sont vraiment en train de se creuser le ciboulot pour savoir ce qui se passe. C'est vraiment intéressant, cette question. Toujours pas verbalisée. Pourquoi, la deuxième question, pourquoi parles-tu avec elle ? Et si on regarde de nouveau, en grec, c'est une histoire d'enseignement, c'est une histoire de prédication. Non, mais imaginez ce qui se passe dans leur tête. Ils sont en train de se dire, dis donc Jésus, mais pourquoi est-ce que tu enseignes cette femme ? Tu es en train de lui prêcher. Ça, c'est dans leur tête. Moi, je trouve très, très intéressant parce qu'on est tellement souvent comme ça, nous. Où on a des multiples questions, où parfois même on dit à Dieu, mais pourquoi tu fais comme ça ? Franchement, pourquoi tu discutes avec cette personne ? Alors, l'amour de Dieu, il est là. Et il aime chacun de nous, mais chacun qui est à l'extérieur, de la même manière. J'ai noté là, nous pourrions parler de quelques préjugés pas très glorieux des disciples. Est-ce que vous y retrouvez ? Oh, je dois être le seul. Finalement, on comprend leurs questions quand même, parce que c'est une situation très étonnante. Dans la suite du texte, il est dit « Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortent de la ville et vinrent vers lui. Et puis, j'aimerais vous remercier d'avoir payé un voyage à David. Pourquoi ? Parce qu'il était là-bas puis il a calculé la distance entre le puits et la ville. Alors, ce n'est pas simultané, hein ? David Dixit, ça fait 2,5 km en aller-retour. Ça veut dire que dans le texte, il y a comme un enchaînement, mais c'est un enchaînement qui est un petit peu diffus dans le temps. Ce n'est pas exactement la femme part et ils arrivent, c'est la femme part, il se passe un certain temps, et après, ces gens de la ville viennent vers Jésus. Et pendant ce temps-là, j'ajoute encore qu'on pourrait traduire par « dans l'intervalle ». Ce serait aussi juste. Les disciples le pressaient. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples ne comprennent pas et ils ramènent, comme souvent nous aussi, tout au visuel. Ce qu'ils voient, ils le transmettent tout de suite. Mais Jésus, lui, il est sur un autre niveau. Il leur fait une révélation dont ils ne pigent rien. Un peu comme la Samaritaine d'ailleurs, qui, lorsqu'elle discutait avec Jésus, essayait toujours de ramener les choses à un niveau terrestre. Ce soit pour l'adoration, enfin bref, vous réécouterez le message. Alors Jésus, il précise, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Est-ce que vous mangez régulièrement ? En général, oui, hein ? Et la nourriture de Dieu ? Quand est-ce que vous en mangez ? Ou quelle est-elle ? Et cette question, c'est cette question sur laquelle j'aimerais vraiment insister. Et avant d'oser vous en parler, croyez-moi, j'ai dû aussi moi me poser cette question. Est-ce que je connais réellement cette nourriture ? Et quand on parle de nourriture, ce n'est pas vraiment un choix. Quand Jésus dit « ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu », ça veut dire que quelque part, il y a un niveau de compréhension, un niveau de nourriture qui n'est pas le même pour lui que souvent pour moi ou pour nous. Quand je me lève le matin et puis que je décide de déjeuner, je ne vais pas demander à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Peut-être qu'il y a... Dieu, il a une autre priorité pour moi à ce moment-là. Est-ce que je suis capable de l'entendre ? Est-ce que je suis capable de me nourrir d'abord de cette obéissance à Dieu qui mène à ses œuvres. Dans Jean 6, au verset 27-29, il dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. » Ça veut dire quelque part que cette nourriture, elle est presque plus vital que la nourriture terrestre. Mais c'est faux, cette question. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Et moi, ça m'a renvoyé tellement à ma vie en me disant, mais à quel moment dans ma journée je vais chercher avec une absolue nécessité la nourriture d'en haut? C'est des questions qu'on doit vraiment se poser aujourd'hui. Savoir quelles priorités viennent s'instaurer dans ma vie pour que je sois nourri convenablement. Alors, on pourrait quand même se poser cette question. Est-ce que Jésus, il avait besoin de la nourriture de ses disciples? Ben évidemment, il en avait aussi besoin. Est-ce qu'il avait besoin de la nourriture du Père? Évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est qu'on voit qu'une priorité a été instaurée clairement dans la vie de Jésus. Mais cette question, il faut qu'on se la pose, et je me la suis posée. Est-ce que c'est vraiment cette réalité dans ma vie? Est-ce que la nourriture de Dieu est prioritaire sur l'autre? Et je ne vous parle pas de jeûne là. Je parle juste d'organisation de son temps, de soumission à l'esprit, de compréhension de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et je ne suis pas en train de vous reprendre ou de vous engueuler. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu commence ou continue une œuvre au milieu de vous qui consiste à prioriser la nourriture du ciel. Ça, c'est sa volonté. C'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous, avec chacun de vous. Et c'est ce message prioritaire que j'aimerais vous laisser ce matin. Alors, la plus mauvaise raison de justifier l'attitude de Jésus, ce serait de dire « Moi, Jésus, je suis tellement au-dessus de ces choses que vous, les disciples, vous allez vite faire les commissions et vous me nourrissez. » Et l'autre raison, ce serait de se dire « Le Père a un projet auprès de ce puits. Je n'ai pas tout compris, mais tout à coup, cette femme, elle arrive et je comprends que Dieu veut faire quelque chose. » Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie vraiment de ça? De prioriser les choses selon le plan de Dieu? Dans les deux petites phrases, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas » et l'autre, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre », en fait, en grec, ce n'est pas le même mot. Quand je dis « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas », le mot grec, c'est une nourriture physique aussi, ça peut être le pain, le vin, autre chose, mais c'est aussi une nourriture de l'âme qui à la fois la rafraîchit et la nourrit. Cette nourriture, elle rafraîchit et elle nourrit ton âme. Mais c'est pas beau ça. Et puis après, ben comme les disciples, souvent comme moi, ils ne comprennent rien du tout, il redit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et puis alors là, on ne parle plus de l'âme, on dit juste la vraie nourriture. Le pain, le vin, etc. Ça, c'est ma nourriture. C'est intéressant de voir qu'en grec, ce n'est pas le même texte. Et l'interprétation, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai marqué ici, Jésus il a voulu insister tellement là-dessus qu'il a exclu de l'histoire de l'âme pour qu'il se rende compte que cette nourriture-là, elle était prioritaire pour lui. C'est bon ? On continue. Je vous propose une petite plongée dans l'aspect de la nourriture dans la parole, parce que vous verrez, il y a un lien extrêmement fort entre ce qui est Dieu, la révélation de Dieu, lui-même, et le don de Dieu. Alors, si je vous posais la question, quelle est la première nourriture ? Qui est à la fois une nourriture spirituelle et puis une nourriture physique dans la parole, je suis sûr que vous arriverez à tomber très rapidement sur la manne. Bravo. Une femme qui trouve le manne, c'est bien. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain. Et mais c'est extraordinaire, pleuvoir du pain. Pour vous, depuis le ciel, le peuple sortira, on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Bon, il y aurait 1012 choses à dire là-dessus, mais rendons-nous compte que Dieu, il fait toujours ce lien, ou tellement souvent ce lien. Ou bien il va décrire le pays promis dans Exode. « Je suis donc descendu pour le délivrer des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. » C'est tellement beau. Il illustre un peu toute la bonté, toute la générosité de Dieu au travers d'éléments de nourriture. Et puis, il y a aussi une autre nourriture magnifique, c'est ce que j'ai appelé la nourriture potion magique. Qui c'est qui en a eu besoin ? Élie, il était caché sous son genêt, déprimé, malheureux, abandonné, tellement semblable à ses concitoyens. Et puis Dieu le réveille deux fois. Il lui donne une nourriture. C'est intéressant cette nourriture. Une cruche d'eau et un gâteau fait sur des pierres chauffées. Quand j'ai relu ça, je l'ai vu avec un autre regard. J'ai dit, mais quelle sollicitude. Et puis, il ne l'a pas fait qu'une fois, hein, deux fois. Et avec cette nourriture, qu'est-ce qu'il a pu faire, Élie ? 40 jours dans le désert. Bon, c'était agréable, il avait la clim. 40 jours, il a marché. 40 jours, il a marché avec cette nourriture-là. Mais on se rend compte de ce que la nourriture céleste peut nous donner comme force. Mais quand on ne peut plus, tu peux encore avec Dieu. Il donne assez de force pour que tu ailles plus loin. Après, il y a encore une nourriture révélation. Alors, on peut faire le lien avec la prophétie. Hein. Eh bien, Dieu il dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Ça vous rappelle quelque chose ? Je lis un peu plus loin. J'ai regardé et j'ai vu qu'une main, Ézéchiel 2:8-3:3. J'ai regardé et j'ai vu une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre. C'est génial. Dieu, il te donne à manger un bouquin. C'est pas beau, ça. Et ce livre, il est très spécial. Il l'a déroulé devant moi. Écrit des deux côtés, il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche, il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors j'ai avalé et dans ma bouche, il était doux comme du miel. C'est entre autres pour ça que j'ai relevé juste les paroles prophétiques tout à l'heure. Ces paroles prophétiques, quand tu les reçois, elles te nourrissent. Elles te nourrissent. Tu peux t'appuyer dessus, tu sais que quelque chose est seulement pour toi parce que Dieu le dit à toi. Et si tu ne les oublies pas, si tu ne les laisses pas tomber à terre, elles produisent du fruit. Je m'arrête juste un instant. Permettez, monsieur qui a le pull rouge là-bas. Oui, c'est vous. J'avais juste cette pensée ce matin, en regardant que Dieu voulait juste vous certifier que vous êtes un fils tellement bien aimé de sa part. Est-ce que vous pouvez recevoir cela ? Amen, merci. Qui c'est dans le Nouveau Testament qui a vécu quelque chose de semblable ? C'est Pierre. Pierre, il est sur son toit. Devinez quoi ? Il crève de faim. On lui prépare à manger. C'est tellement beau. Parce que tout à coup, Dieu lui dit, mais attends, j'ai une autre nourriture pour toi. Et vous savez, cette histoire de cette nappe qui descend avec tous ces animaux. Puis Dieu lui dit, tue et mange. Pierre lui dit, non. Si, si, fais-le. Et il y aura toute cette ouverture vers les gentils. Je passe sur l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jésus qui dit, je suis le pain de vie. On l'a mangé ce matin. Ce matin, tu as été nourri dans tes entrailles par la Sainte Seine. Alors, avec tout ça, reposons-nous la question. Est-ce que tu connais la nourriture de Jésus ? Alors, ma réponse, elle est clairement oui. Mais est-ce qu'elle est équilibrée ? Probablement, bien souvent, nous ressemblons aux disciples. Et ils estimèrent tellement plus légitime d'aller à la Migros que de rester vers Jésus. Moi, je les comprends. Purée, ils avaient marché. Ils avaient faim, ils avaient soif. Et peut-être là, il y a des changements qui peuvent intervenir. Trop souvent, je crois encore, moi le premier, nos priorités ont besoin d'être ajustées par rapport au Saint-Esprit. Et si Jésus n'était pas resté au puits, qu'est-ce qui ne se serait pas passé ? Ben, pas de Samaritaine, elle n'aurait pas été sauvée. Mais ce n'est pas tout. Elle va raconter son histoire et il y a toute la ville finalement qui va se convertir. Une priorité dans nos vies peut transformer une ville. Qui dit amen? Et c'est ça qui doit de plus en plus brûler dans nos cœurs. Ce feu de Dieu qu'on a chanté, cette source au milieu, le but, c'est clair, c'est de t'établir en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Ces choses qui te sont données, elles doivent être multipliées. Dès l'instant où elles restent que en toi, ou que tu en bénéficies, que toi, parfois, il y en a besoin. On voit comme Élie, hein, il en avait vraiment besoin. Ce n'est pas là la question. Mais d'une manière générale, donne, libère tout ce que Dieu t'a fait comme cadeau. La multiplication, c'est ce qu'il veut. J'ai écrit là, j'ai l'impression que je suis, que nous sommes parfois comme des clignotants. On est allumé, on est éteint. On est allumé, on est éteint. Et puis Dieu, il dit, ne sois pas de temps en temps la lumière du monde. Juste quand tu penses que c'est juste. Sois la lumière du monde tout le temps. Il y a le boulot, il y a la famille. Mais oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a tout ça. Et Jésus, il sait tout ça. Mais il y a des moments où l'intentionnalité de ton témoignage, de ce Jésus en toi, doit prendre le pas sur d'autres priorités. Alors, oh pardon, ma montre me dit que je suis tombée. Bon. Ça lui arrive de temps en temps, quand je la secoue trop, elle n'aime pas trop. Voilà. Est-ce que j'aimerais... Oui, je vais maintenant vous raconter l'histoire d'une intentionnalité que j'ai vécue et puis tout ce que ça a donné. Alors, c'est l'histoire d'une décision qui est partie comme ça. L'histoire d'un voyage que j'ai fait avec Porte Ouverte. Peut-être vous connaissez Porte Ouverte, c'est donc une institution qui a comme but d'aller encourager les chrétiens qui sont persécutés. Comment c'est parti ? Une famille de notre communauté est partie servir, c'était en Tanzanie. Tanzanie, c'est juste en Tanzanie. Ils sont partis en famille avec 3 gamins. Et ils nous ont raconté ça. J'ai trouvé ça tellement génial. J'ai dit, oh Seigneur, super, tu les envoies. Puis dans le même temps, le Saint-Esprit m'a dit, et puis toi ? Super. Bon, donc je l'ai entendu, mais je ne l'ai entendu pas tout de suite. Mais quand même, ça m'a mis en route, du coup... J'ai fait des recherches, j'ai trouvé aussi l'occasion de faire 2 voyages. Cette année, j'en ai déjà fait 1. Je vous raconte ce voyage. Partir avec une organisation, c'est se soumettre à une autorité, ça ne me posait pas de soucis. Partir avec 10 d'autres personnes que je ne connais pas, avec lesquelles on n'a jamais prié, c'était déjà un tout petit peu plus complexe, mais je sentais que c'était juste. J'avais mes balises qui étaient alignés, à savoir que ma femme était d'accord, à savoir que l'Église était d'accord. Et donc, je suis parti. Ce que je vous dis là, je vais le formuler comme ça. par égard pour nos frères et sœurs qui sont dans ces pays persécutés, je vais donner les noms, mais je vous demanderai aussi peut-être un brin d'être discret par rapport aux endroits, de manière à ce que ceux qui sont là-bas et qui sont en danger de mort, que ces gens-là ne soient jamais embêtés. On est d'accord ? Alors, le pays où je me suis rendu, c'était au Maroc. Vous me direz, le Maroc, tout le monde va au Maroc. Oui, le problème, c'est que les gens marocains qui habitent là-bas ont comme obligation première, c'est d'être musulman et tu ne changes pas. Et dès que tu changes, ça veut dire l'exclusion totale de ta famille, l'exclusion de ton travail, l'exclusion de tout soutien financier et autres. Et donc, ils se sont seuls, seuls et seuls. Et donc, c'était tellement beau, ce voyage, de pouvoir aller les encourager. Chose qui était faite. Dieu était avec nous, ça a été un temps fabuleux, on s'est très très bien entendu. Mais j'aimerais juste vous raconter une séquence. Et cette séquence, s'il vous plaît, à la gloire de Dieu. Certes, Dieu m'a utilisé, mais c'est pour sa gloire. On était dans une église de maison. On a été accueillis dans une église de maison, mais c'est une église cachée. Vous pouvez y entrer seulement quand on vous ouvre la porte à travers un petit Judas. Et puis on a été invités là-bas. Quelle confiance déjà de ces gens qui se mettent réellement en péril pour nous accompagner, pour nous accueillir. La première chose que j'ai vécue, c'est « ouvre ta bouche et je la remplirai ». Comme ça s'est organisé, c'était une prédication en arabe. J'ai bien compris. Hein, ouais, ben, bon, bref. Et puis, c'était un échange de discussion autour de cette prédication. Mais je n'ai vraiment rien pigé. Je ne savais pas de quoi on causait. Je parle l'anglais comme une vache espagnole. Donc, voilà. Et tout à coup, dans le groupe où j'étais, ils m'ont dit « Ah, Marc, va-toi raconter notre groupe ». Je ne savais absolument pas ni ce que j'allais dire, ni ce qui allait arriver. Ben donc, je me lève, un peu à la manière Winkelried, vous savez. J'arrive devant, et puis j'ai vécu ce miracle. J'ai ouvert ma bouche, et Dieu a parlé. Juste des encouragements tout simples pour cette église. Et finalement, on est arrivé à les encourager, à les entourer, à prier pour eux en équipe. C'était tellement beau, mais ça ne s'est pas arrêté là. Tout à coup, il y a eu une puissance de guérison, mais miraculeuse, qui est tombée dans cette église. Alors la première chose, c'était, j'ai vu que Dieu touchait les yeux d'une personne dans l'assemblée. Alors, j'ai dit, bah, je crois que Dieu veut toucher les yeux de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a mal aux yeux? Bon, une main qui se lève, on a prié pour elle, guérie. Donc le premier tonné, c'était moi. Ensuite, bah, l'onction était là, ça continue. Je sens que c'était quelqu'un qui avait été touché aux chevilles. Donc je dis, mais il y a une deuxième personne qui a une cheville qui est blessée. Pof, une autre main qui se lève. C'était une jeune femme qui vient en boitillant. On prie pour elle. On a entendu les os se remettre en place. J'avais jamais vécu ça comme ça. C'était un temps spécifique, mais exactement comme le temps de la Samaritaine. Dieu, il avait prévu quelque chose, mais on était juste disponible pour lui. Et c'est très intéressant parce qu'on a discuté après avec cette jeune femme. En fait, elle est prophète. Et elle nous dit, texto, Satan a déjà essayé de me tuer 3 fois. Et ça, c'est les restes de la 3e fois. Une voiture m'a shooté de plein fouet et ma cheville, elle est restée blessée. Ben, je suis encore parvenu. Mais alors, je vais vous dire quelque chose. Ça m'a nourri. Et encore aujourd'hui, je sais absolument que Dieu peut faire ces choses, certes à travers moi, mais à travers chacun de nous. À travers chacun de nous. La puissance du Saint-Esprit, elle est là, elle est en toi. Ce fleuve, il est là. Et il demande qu'une chose, laisse-moi agir au travers de toi. Laisse-moi agir au travers de toi. Prends le risque de ne pas maîtriser, de ne pas comprendre ce qui se passe. Mais moi, je veux agir au travers de toi. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce que je relève juste quand même, c'est que dans le cadre de cette séquence voyage, toutes les personnes qui étaient là, elles n'avaient qu'une chose à faire. Une seule chose, s'occuper de nos frères et sœurs marocains. On n'avait rien d'autre à faire. Donc, voilà, c'était une situation spéciale. Mais alors, j'ai appris des choses et nous pouvons apprendre des choses dans ces situations spéciales. Que ce soit une parole prophétique que tu reçois, que ce soit lorsque tu es dans un séminaire, lorsque tout à coup tu discutes avec quelqu'un et tu sens que Dieu il agit à travers de toi. Ça, c'est sa vie. Et c'est son autorité, c'est la puissance de la résurrection qui veut agir au travers de toi. J'ai écrit là, comme ça. Dis autrement, est-ce que ma vie est faite de gros repas gastronomiques occasionnels ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu vis hop, un temps sur la montagne, puis après, bah, c'est normal, on redescend. Ben oui, c'est normal et pas normal. Parce que tu peux chercher, être intentionnel pour que la prochaine montagne, elle ne soit pas 10 ans après. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il veut le faire pour chacun de nous. Et je choisis un peu ce que je vais vous dire. Je vais juste lire deux passages qui nous confirment cela. Dans Jean 15, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Écoute ça. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et qu'est-ce qu'il a ? Il t'a choisi pourquoi ? Ben d'abord, il t'a établi. Il t'a établi en lui. Il a créé ton identité en lui. Il t'a équipé avec des dons. Du feu. Puis après, il dit, afin que vous alliez. Que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure juste que dans l'éternité. C'est tout des verbes. C'est de l'action. Dieu ne t'a pas établi pour t'asseoir dans un fauteuil. Inch'Allah, tout va bien. Ça me fait rire. Tellement souvent encore, je suis dans mon fauteuil. Bref, donc encourageons-nous. Et puis, j'aimerais encore dire dans Éphésiens 2, au verset 10, il est dit, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Amen. » C'est quoi la suite ?« Pour des œuvres qu'il a prévues pour chacun de nous. » Je paraphrase un petit peu. C'est pour ça qu'on est sur terre. Pour réaliser son œuvre ou les œuvres qu'il a préparées qui sont bonnes, il les a préparées d'avance, même dit le texte, afin que nous les pratiquions. Mais vous n'avez pas envie de dire amen à ça. Ça doit devenir plus que juste « Ah ouais, ce serait chouette ». La nourriture, c'est ce que veut Dieu pour nous. Que ce soit, ça devienne tellement impératif qu'on ne peut pas faire autrement. Est-ce que tu crois cela ? Est-ce que tu le désires plus que tout ? Moi, je sais que vous le désirez. Je ne sais pas si Dieu m'a dit ça. En gros, ce qu'il m'a dit, mais cette communauté, elle est prête. Je leur ai donné à boire, ça c'est le message de David, et aujourd'hui, toi, tu vas leur donner à manger. Parce que ça va ensemble. Si tu ne bois pas, tu meurs. Si tu ne manges pas, tu meurs. Mais si tu manges et si tu bois, tu es mon disciple et tu pratiques mes œuvres. Waouh ! Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit parce que vous êtes prêts. J'avance. Vous savez, il y a encore dans ce texte-là, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ben c'est une parole, semble-t-il, humaine. Ouais, je n'ai pas voulu chercher trop loin. Mais regardez les champs. Alors, ma question, c'est quand tu regardes les gens autour de toi, ils sont de quelle couleur ? Ou je ne vous parle pas des Chinois ou bien des Africains. Vous devriez les voir blancs parce que la moisson est prête. Et quand je réfléchis à Jésus, mais Seigneur, il faut que tu transformes mon regard, quoi. Moi, de temps en temps, parmi tous ceux que je recroise, je vois un qui est un peu blanc. Mais toi, tu les vois tous. Et à chaque génération, la moisson est prête. À chaque génération, la moisson est prête. Est-ce que nous sommes des moissonneurs ? Est-ce que nous sommes des semeurs ? Alors, encore un petit bout de témoignage personnel, j'essaie de faire vite. Moi, j'ai dit une fois à Dieu, tu sais, je suis super frustré. Et pourquoi tu es frustré ? Eh bien, parce que je n'arrive pas à témoigner assez. Ce n'est pas normal. Ta vie en moi, elle doit se donner, ce que je vous ai dit avant. Alors, on a réfléchi aussi en église à ça, et puis on est tombé sur la possibilité d'organiser une chasse au trésor. Est-ce que vous savez ce que c'est une chasse au trésor ? Alors, je vous explique en deux mots, parce que je crois que tout le monde ne sait pas. L'idée, c'est ça. Tu te réunis, tu pries, tu demandes à Dieu quelques pensées qui sont liées à des personnes qui sont à l'extérieur de l'église, qui ne connaissent pas encore Dieu. Ça devient ton trésor. Par exemple, tu te dis, bah, je vais aller à la gare à Neuchâtel, ou bien au bord du lac. C'est une personne qui a un chapeau. C'est un homme, il est assis sur un banc. Et puis, peut-être il a mal à un pied. Vous voyez, l'idée, c'est de demander au Saint-Esprit qu'il nous décrive en quelque sorte le trésor. Puis après, tu fais quoi ? Tu vas sur le canapé ? Non. Tu sors et tu vas à la recherche de ton trésor. Et on a demandé à une église sœur de pouvoir apprendre la chasse au trésor avec eux parce qu'ils étaient déjà bien en avant et on a été là-bas. Et on a appris à pratiquer cette chasse au trésor. Tu sors avec l'intention absolu de témoigner de Jésus-Christ. Qui c'est qui a déjà fait ça ? Bravo ! Alors, laissez voir les mains hautes. Sachez, tous ceux qui ont les mains hautes, que vous êtes de ceux qui doivent briser la glace pour ceux qui ne connaissent pas. Prenez-les avec vous. Sortez avec eux. Montrez-leur que dehors, il n'y a pas que des chiens méchants qui vous mordent les fesses. Il y a des gens qui ont faim et soif de la parole de vie. L'intentionnalité. Alors, on n'en est pas très loin, hein, mais on chemine. Hier soir, on était encore dehors. Allez, je vous raconte encore celle-là, elle est trop jolie. On avait rendez-vous après avec l'équipe qui était sortie. Je sais pas, c'était 8h moins 15, je crois, le soir. Et puis, comment je vais raconter ça ? Il y avait, voilà, moi j'étais pris entre le temps pour être à l'heure au rendez-vous et puis la personne qui était encore là. Vous voyez le dilemme ? Alors la personne avec laquelle j'étais, non, mais qui faisait la chasse au trésor avec moi, elle me dit non, mais on prend encore le temps de discuter avec cette femme. Puis moi je disais, mais non, ils nous attendent. Mais elle avait raison. Elle s'est arrêtée. Mais on a eu un super contact. Bon, on était 20 minutes en retard, mais on a eu un super contact. Et je me suis dit, après, voilà, la priorité, ce n'était pas l'heure, ce n'était pas le temps. C'était exactement comme Jésus. L'important, c'était encore de s'arrêter vers cette femme, même si les autres nous attendaient, peu importe. Ben, on va faire un déjeuner à l'église là, dimanche prochain. Elle nous a dit, je serai là. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est tellement beau. Elle nous dit, je serai là. Parce que vous vous êtes arrêtés vers moi. C'est pourtant pas grand-chose. Juste aller vers cette femme, lui dire, Madame, voilà, on aimerait vous donner une invitation. Et puis, est-ce qu'on peut prier pour vous ? Puis elle dit, oui, vous pouvez. Ben, moi, je l'aurais loupé. Mais la personne qui était avec moi, elle voulait rester. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que dans ce texte, on voit qu'il y a une compression du temps. Jésus, il parle de semer et de moissonner en même temps. Ça, c'est pas terrestre. Ça, c'est pas terrestre. Mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. La même journée, tu peux semer et tu peux moissonner. Tu peux semer et tu peux moissonner. Peut-être à 10 minutes d'intervalle. Le temps de Dieu se compresse, se comprime aujourd'hui. Et la moisson attend que nous, ses enfants, on ose. On ose. Hop. En résumé, accomplir la volonté de Dieu, avoir ce focus à chaque instant de nos vies. Avoir ce focus à chaque instant de nos vies. Et ce focus, il faut savoir que Dieu y connaît tout en programme. Il y a des choses qui sont incompressibles dans notre temps, c'est OK avec tout ça. Mais parfois, ne pas faire comme moi hier soir en disant « Ah, c'est l'heure de la pendule, et donc je passe. » Mais oser s'arrêter. Oser dire « OK, ça je peux faire après, la priorité, elle est là. Ma Samaritaine est devant moi. » Je vous partage encore juste... C'est bon ? Ah oui, voilà. Alors j'aimerais encore vous partager... Je disais, Seigneur, j'ai besoin d'une parole pour eux. Je ne veux pas un truc bateau. Et Dieu m'a parlé, je crois, et je, voilà, pour être tout à fait clair, j'ai soumis cette pensée à David, parce que je trouve que c'est très important que ce qui se dit devant soit en accord avec la direction de l'Église. Il m'a donné son accord. Dieu a une onction de Joseph pour vous. C'était qui Joseph ? Ben Joseph, c'est un Hébreu qui a été laminé par ses frères, par les situations de sa vie, mais il est resté d'une fidélité exemplaire à Dieu. Et il avait reçu un don tout à fait particulier, c'était le don pour interpréter les rêves. Alors d'abord, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu n'as peut-être pas ce don, mais c'est absolument sûr et certain, parce que c'est biblique, que tu as aussi un don que Dieu t'a donné. Et non seulement un, mais tu as encore le droit d'aspirer à d'autres dons. C'est Corinthiens 12 qui nous dit ça. Alors, il y a cette première idée, c'est qu'il y a au milieu de vous toute une flopée de Joseph, masculin ou féminin, que Dieu aimerait équiper d'une manière particulière. Et qu'est-ce qu'il a fait, Joseph ? Il a interprété ses rêves, et puis du dernier laquais qu'il était, il est devenu le second de l'Égypte. Alors toi, tu es pas la queue, tu es la tête. Tu es pas la queue, tu es la tête. Et Dieu, il te fait régner sur un bout de quelque chose qui est ton Égypte. Ton Égypte, c'est ton boulot, c'est les endroits que tu côtoies habituellement, tous les endroits où la majorité des gens ne sont pas des chrétiens. Donc quand tu es à l'église, tu n'es pas à l'Égypte, tu comprends ? Enfin, normalement pas. Je me marre. Et puis, en gros, le message de David, c'était de dire, il y a en nous, il y a au milieu de nous, une source ou une cascade. C'est la même chose. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, au milieu de vous, il y a ce qui est l'équivalent du Nil. Le Nil, c'est ce grand fleuve qui nourrissait complètement l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce fleuve, de temps en temps ? Il débordait. Et quand il débordait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il irriguait toute la région et ça donnait de la fertilité pour tout le pays. Alors, le Nil, il existe au milieu de vous. Le Nil, c'est le fleuve de l'Esprit. Il est en toi et il est dans cette communauté. Et il coule pour sortir des murs pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça, c'est la vérité de Dieu pour vous, Église Passion. Et il y avait encore cet élément aussi, Dieu comprime le temps. C'est le temps aujourd'hui de la moisson et de la semaille, ça va ensemble. Et j'aimerais tellement que vous soyez enthousiasmés parce que Dieu, il va faire ça au milieu de vous. Il a commencé, il va continuer et ça va être tellement beau et riche. Amen. C'est bon. Qui c'est qui se sent un appel de Joseph ? Lève-toi. 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 Et moi, j'aimais tellement être debout avec vous, là au milieu. L'appel de Joseph, c'est de dire, OK, je vais être en bénédiction pour tous ceux qui sont autour de moi. Je veux libérer ce fleuve. Je veux que ma communauté se multiplie par 10. Je ne veux plus retenir la bénédiction que Dieu a mise sur ma vie. Père, je sais que tu as prévu ça pour chacun de nous et que tu as prévu d'une manière spéciale pour tous ceux qui sont levés. Je prie que tu implantes maintenant d'une manière renouvelée cette onction de Joseph. Tu la déposes avec délicatesse, avec amour, mais avec autorité, avec puissance dans la vie de mes frères et sœurs. Je prie que ça fasse une différence, Jésus, et que la couleur de la moisson devienne tellement éclatante pour chacun. Merci parce que voilà, c'est ta décision de le faire. Et Seigneur, on veut juste se réjouir, élever ton nom, te glorifier. Alors merci Seigneur de pouvoir comme prophétiser la croissance, prophétiser la récolte, prophétiser la semaille, tout ensemble. Tu es Dieu. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis.
Merci Marc, je te bénis pour ton partage et on veut vraiment saisir tout ce qui a été dit et Seigneur il est là au milieu de nous et je crois que ouais, comme on l'a dit, il a des belles choses en réserve, c'est le temps de semer, de moissonner et puis il est là et lui il est en première ligne pour nous attirer avec lui dans cette saison-là aussi, vraiment.